Depuis une semaine, l'épidémie recommence à gagner du terrain. On parle d'un niveau très faible, mais il faut être vigilant. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement hier. De fait, le taux d'incidence du virus augmente légèrement depuis le début du mois. 20 départements de métropole sont au-dessus du premier seuil d'alerte à 50. Taux d'incidence le plus élevé pour les Bouches-du-Rhône, 106. Au-delà des 50 également, Guadeloupe, Martinique, Guyane. La Guyane à 264. Alors est-on au tout début d'une nouvelle vague ou bien le taux de vaccination, près de 50 millions de Français complètement vaccinés, nous protège-t-il et pour combien de temps? Un nouveau conseil de défense sanitaire se tenait ce matin. 01 45 24 7000, l'appli France Inter pour vos questions. Notre invité est l'épidémiologiste et professeur en santé publique à Genève, Antoine Flahaut. Bonjour Antoine Flahaut.
Bonjour.
Moins de 5000 contaminations quotidiennes, des niveaux d'hospitalisation relativement bas, mais une petite recrudescence du virus dans le pays. Comment qualifiez-vous ce moment? C'est le début d'une nouvelle vague?
Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est une situation de décrue épidémique en ce moment. Donc la France est dans une situation très favorable, avec finalement très peu de pays européens dans cette situation. On peut citer l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse et la France. Voilà les pays qui bénéficient aujourd'hui de cette accalmie. Pourquoi ? Parce que les autres, justement, sont sous l'effet de ce rebond que l'on peut redouter en France par des premiers signes que vous dites, qui est qu'on voit remonter en effet. On ne voit plus descendre, en tout cas, la courbe épidémique, et on voit remonter dans certains départements cette circulation du virus qui pourrait laisser craindre que finalement ce mouvement qui vient de l'Europe centrale et de l'Est, il y a des épidémies très, très très fortes en ce moment en Roumanie, en Russie, en Bulgarie, en Ukraine, et qui commence un petit peu à diffuser, je dirais, sur les Pays-Bas, sur l'Autriche, la Belgique, et qui pourrait arriver en France ces prochains jours.
On est toujours sur un variant Delta dans ces pays où il y a de nouveaux variants qui émergent?
Non, le variant dominant, c'est le variant Delta. Au Royaume-Uni, il y a un variant qu'on appelle le Delta Plus, qui émerge un peu, il représente 7 à 8% des souches. C'est un variant du variant Delta, mais il est sous haute vigilance parce qu'il est un peu plus transmissible que le variant Delta et il semble pouvoir échapper davantage au vaccin. Donc il serait fort déplaisant qu'il s'impose, mais il n'a pas l'air de s'imposer pour le moment. Il n'a pas une très forte transmissibilité supérieure au variant Delta. Donc pour le moment, c'est vraiment le variant Delta qui a gagné toutes les compétitions, on va dire, dans le monde et qui s'est imposé très rapidement parce qu'il était beaucoup, beaucoup plus transmissible que le variant Alpha qui précédait.
Ce qui est frappant en ce moment en France, c'est que les départements où le Covid augmente à nouveau sont des départements ruraux, Deux-Sèvres, Aveyron, Lozère, sont des départements où en fait on partait très bas.
Oui, il faut toujours regarder ça avec un peu de précaution parce que vous savez, quand un département est très peu peuplé, vous parliez de la Lozère par exemple, il suffit de deux clusters dans un lycée, dans un EHPAD pour que vous ayez l'impression que ça flambe. En fait, ces deux clusters, s'ils sont bien identifiés, peuvent être assez rapidement repris sous contrôle et c'est pas nécessairement le démarrage de l'épidémie, donc d'une vague épidémique en tout cas. Du coup, ça ne veut pas dire qu'il faut pas être vigilant. On sait que c'est comme ça que se transmet le virus. C'est toujours dans des milieux intérieurs fermé par aérosol, autrement dit, et c'est souvent par des clusters, c'est-à-dire des chaînes de supercontamination qui vont concerner rapidement 25, 30, 40 personnes. Et à l'échelle d'un tout petit département, ça fait une augmentation très rapide.
On est au-dessus ou en dessous du R1 en ce moment, Antoine Flahaut, en France? C'est-à-dire de cette situation où une personne contaminée en contamine une, voire un peu plus?
Alors oui, vous parlez du taux de reproduction, ce R. Quand il est en effet supérieur à 1, c'est qu'on est en courbe de croissance exponentielle. Et quand il est inférieur à 1, c'est que l'épidémie est sous contrôle. On n'est plus dans une épidémie sous contrôle avec un R inférieur à 1 en France. On a un petit peu au-dessus. La seule difficulté qu'on a en France actuellement, c'est que la France a décidé la fin de la gratuité des tests le 15 octobre.
Oui.
Et ça crée une petite turbulence momentanée. Ça va durer une semaine, mais pendant une semaine, nos prévisions et même nos chiffres de situation épidémique ne sont pas très précis et probablement sont un peu biaisés vers le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le R en France est à 1,03. Pour ma part, je ne serais pas surpris qu'en fait il soit plutôt à 1,10, un peu sous-estimé, autrement dit, à cause de cet effet de diminution du nombre de tests et donc du diminution du nombre de nouveaux cas en France.
On va au standard dans un instant à propos de la troisième dose, Antoine Flahault. Juste une question, le gouvernement, il y a eu des débats épiques à l'Assemblée hier à propos de la prolongation de la possibilité, au fond, d'utiliser le pass sanitaire jusqu'à l'été prochain. Est-ce qu'il faut garder cet instrument à disposition sous le coude pour pouvoir le sortir dès que nécessaire?
Alors, le pass sanitaire a été un instrument très astucieux, employé par d'abord les Danois en avril, ils appellent ça le Corona Pass, en avril dernier, puis par les Italiens, puis par les Français et puis les Suisses. Très astucieux parce que il a réussi à juguler cette vague de liée au variant Delta d'ailleurs, hein, que nous avons tous connu en Europe au mois de juillet-août. Les Britanniques qui ont levé le pass le 19 juillet et l'usage du masque également, ont aujourd'hui une situation très différente et même très compliquée, avec 140 morts par jour et 45 000 cas par jour. C'est pas du tout la situation des Français. Donc, je dirais que vouloir garder cet usage étendu du pass sanitaire, c'est se donner un instrument qui est peut-être capable d'éviter des confinements, qui est peut-être capable de garder sous contrôle cette épidémie. Sans parler d'un deuxième avantage, qui était très clair pour la France, on espère en Suisse qu'il sera aussi efficace, c'est qu'il a motivé une augmentation de la couverture vaccinale phénoménale, hein, puisque la France était à peu près au niveau de la Suisse, à 60%, elle plafonnait entre 50 et 60% de couverture vaccinale le début du mois de juillet, et elle est montée à 75% aujourd'hui, ce qui la place dans le peloton de tête, hein, des pays européens les plus vaccinés.
Allez, la troisième dose, beaucoup de questions à ce sujet. Bonjour Marie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez à propos de cette troisième dose.
Oui, je voulais savoir si quelqu'un qui avait une sérologie très récente, extrêmement positive, à plus de 47 000 unités pour un test qui est positif à partir de 150, est-ce qu'il y a un risque à faire une troisième dose? Est-ce qu'elle est nécessaire? Et quel est votre avis sur la question?
Alors, professeur Flahault, je ne sais pas si vous pouvez répondre à une question aussi précise, mais je vous la soumets tout de même.
Oui, alors, je ne sais pas l'âge de la personne à laquelle Marie fait référence.
Quel âge?
La personne a 68 ans, mais l'idée, c'est de savoir si, quand on a une sérologie très positive, la troisième dose peut, à un moment ou à un autre, être négative, même avoir quelques effets secondaires négatifs, ou
non,
si c'est de toute façon pas grave.
D'accord. Alors, donc, à 68 ans, on a une indication de troisième dose tout à fait claire et tout à fait utile. Il n'y a aucune contre-indication à donner une dose avec un taux d'anticorps élevé. Il n'y a pas d'ailleurs de corrélation claire entre le taux d'anticorps et le niveau de protection. C'est dommage, mais c'est comme ça. On aimerait bien, en effet, pouvoir faire une sérologie, se dire « je suis protégé ». On ne peut pas le faire aujourd'hui. Donc oui, je pense qu'il n'y a aucun problème particulier. Il y a même, les Israéliens ont une très grande expérience là-dessus. Ils ont vacciné, vous vous rappelez, tambour battant, en pleine période épidémique. Donc ils ont vacciné des gens qui étaient même en train de faire un Covid et ils avaient des anticorps au plafond. Ils n'ont pas eu de problème particulier avec la vaccination de ces gens-là. Donc je dirais qu'il n'y a pas de raison de ne pas vacciner cette personne avec cette troisième dose.
Est-ce que la situation au Royaume-Uni montre l'utilité de la troisième dose? Les Britanniques ont vacciné plus tôt que nous, donc il y a plus de personnes qui ont peut-être une immunité déclinante, un effet de vaccin déclinant. Ça montre la nécessité de la troisième dose, la situation britannique?
Non, c'est très débattu. Il y a très peu de preuves aujourd'hui que l'immunité est beaucoup baissée dans la population britannique. Chez les immunodéprimés, oui, bien sûr. Chez les personnes âgées, il y a ce qu'on appelle une immunosénescence. Hein, c'est un peu l'équivalent de la presbytie pour la vision dans l'immunité. C'est-à-dire qu'on perd son immunité avec l'âge. Et donc la troisième dose est recommandée très clairement chez les plus de 65 ans. Mais au Royaume-Uni, on ne peut pas attribuer ce que l'on voit aujourd'hui, qui est d'ailleurs surtout une vague qui se passe chez des jeunes et d'ailleurs beaucoup chez des non-vaccinés, mais aussi chez des vaccinés parce que le vaccin n'est pas efficace à 100%, on le sait bien. Il est même efficace à 90% contre les formes graves, mais ce n'est pas 100%. Donc ça permet quand même, surtout quand la vague est importante, à ce qu'il y ait un grand nombre de personnes qui soient hospitalisées malgré la vaccination.
Sur cette troisième dose, au fond, quel est l'état de la science aujourd'hui? On va tous y passer à la troisième dose petit à petit? Pour l'instant, c'est 6 millions de personnes éligibles en France. Petit à petit, on y passera tous?
Alors, c'est le mot état pour la science qui n'est pas très bon ici parce qu'il change tout le temps. C'est pas un état stationnaire, on va dire, en tout cas. Donc, la science est très évolutive. Les connaissances sont évolutives. Donc, ce que je dis aujourd'hui sera probablement très changé, très modifié dans quelques mois ou quelques semaines.
On note aujourd'hui, la précaution.
Voilà. Disons qu'aujourd'hui, la troisième dose, elle est tout à fait clairement évidente à recommander chez les gens qui sont immunodéprimés. Ça, je crois que ça ne fait aucun débat. Chez les gens de plus de 65 ans, il y a quand même beaucoup de pays qui la recommandent aujourd'hui. Il y a beaucoup de données qui laissent penser que cette immunosénescence dont je parlais, c'est-à-dire cette baisse de l'immunité liée à l'âge, justifie une troisième dose. Chez la population adulte, jeune, de moins de 65 ans, il n'y a pas d'éléments très probants pour justifier une troisième dose. En tout cas, toutes les études, y compris même en France, qui ont été faites sur plus de 22 millions de personnes, ne montrent pas, pour le moment, une baisse sensible de la protection. Je dirais même qu'au contraire, on a toujours une très bonne protection de plus de 90% contre les formes graves. Donc, pour le moment, je dirais non, pas de troisième dose chez les personnes adultes.
Professeur Flao, la campagne de vaccination contre la grippe commence vendredi pour les personnes les plus fragiles en France. Quel est l'enjeu de lutter, je dirais, concomitamment contre grippe et Covid? C'est ne pas saturer le système de soins, c'est ça le premier enjeu?
Le premier enjeu, il est individuel, sanitaire.
Oui.
C'est que vous avez des maladies qui aujourd'hui bénéficient d'une protection par un vaccin. On peut donc éviter de souffrir, on peut éviter de mourir. Pour beaucoup de personnes âgées, il est capital de se vacciner contre la grippe parce que c'est quand même stupide d'avoir des complications de la grippe aujourd'hui quand on peut les éviter par un vaccin indolore par ailleurs et très 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 bien toléré et très connu de longue date. On a un vaccin très sûr et efficace contre la Covid également. Donc je dirais que on voit que des personnes sont beaucoup plus à risque que d'autres d'avoir à souffrir des complications de ces deux maladies. Donc il faut se protéger. Après, il est vrai que dans des pays où la saturation du système hospitalier est déjà très importante, c'est le cas du Royaume-Uni dont on parlait, mais aussi des pays de l'Est, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas s'offrir le luxe, si vous me permettez cette expression pas très heureuse, mais d'avoir en plus une vague de grippe qui viendrait saturer complètement le système hospitalier.
Est-ce que contracter l'un des deux virus accroît les risques de développer une forme grave de l'autre? Est-ce que avoir la grippe rend plus fragile et plus à risque d'avoir une forme grave de Covid?
Alors, il y a peu de papiers là-dessus, il y en a quelques-uns, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience sur cette infection concomitante. Mais il y en a quelques-uns qui semblent montrer, il y en a un qui est paru notamment dans une revue britannique, qui semble montrer qu'on aurait deux fois plus de risques de complications lorsqu'on est infecté par les deux virus. On peut un peu le comprendre, c'est des virus qui vous mettent au tapis. Ouais. Le virus de la grippe chez une personne âgée, c'est pas vraiment souhaitable. Et si en plus de cela, il fait aussi une forme de Covid, le risque et une complication semblent plus importants.
Antoine Flao, je ne sais pas si c'est précisément votre terrain de jeu, mais beaucoup de questions autour de pourquoi faut-il la troisième dose avec Pfizer et pas, par exemple, avec Moderna ou d'autres vaccins. La réponse est parce que les autorités de santé ont tranché dans ce sens, c'est ça?
En fait, la réponse est parce que l'Agence de sécurité des médicaments, l'Agence européenne du médicament, a approuvé le Pfizer pour la troisième dose et pas encore les autres vaccins. Et c'est pas tellement le fait des gouvernants, c'est pas tellement non plus le fait de l'agence elle-même, c'est le fait que les fabricants n'ont pas encore déposé les dossiers pour la troisième dose et c'est comme ça que ça se passe pour les médicaments. Quand les médicaments sont approuvés, on peut les recommander, la politique publique peut s'emparer de ces outils pour faire sa politique, mais quand les médicaments ne sont pas homologués, eh bien, voilà, la troisième dose n'est pas homologuée pour les autres vaccins.
Il nous reste une petite trentaine de secondes. Y a-t-il encore des pays qui sont à la recherche du Covid zéro et qui suivent cette politique, Antoine Flao?
Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a essentiellement la Chine.
Oui.
Et Taïwan. Ce sont les deux pays qui résistent un peu. Maintenant, des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui ont abandonné, ou Singapour, connaissent d'ailleurs des vagues. C'est pour ça qu'ils ont abandonné le zéro Covid. Ils n'ont plus la possibilité de contrôler la situation complètement. Ils ont quand même encore des niveaux très, très inférieurs à ceux qu'on peut connaître, par exemple, en Europe de l'Est.
Merci beaucoup, Antoine Flao, d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions des auditeurs de France Inter. Il est 13h45.